Radio.
Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Rentrée scolaire, comment surmonter les difficultés financières et sécuritaires? On en parle dans cette émission aujourd'hui avec l'honorable Didier Katembera, député provincial, élu des Bukavu. Honorable Katembera, bonjour.
Bonjour messieurs, je dis bonjour à tous les toute la plénitude Kivu et du Nord Kivu qui sont des provinces sous occupation de la rébellion. Bonjour à toute la plénitude de la RDC.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien et nous aurons également tout à l'heure madame Liliane Iranga, fondatrice et présidente de la fondation Liliane Iranga, une ONG qui soutient l'éducation des filles à travers le projet Kelasi. Dans la deuxième partie de ce programme, comment prévenir les conflits des successions dans les familles? Maître Ali Chibouaboua, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, de Kananga et de Bruxelles, sera l'invité d'Okapi Service à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Bienvenue à tous dans cette émission. Toute l'équipe de production est en place. Patrick Kiasongwa, Jocelyne Moussaou, David Moussangou, Jean-Marc Matouaki au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Eh oui, encore une fois, bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. L'approche de la rentrée scolaire est souvent une période de grande pression et de stress pour de nombreux parents en République démocratique du Congo. Cela est lié principalement aux difficultés d'ordre financière et logistique. Frais scolaires, achat des fournitures, embouteillages, menaces des grèves des enseignants, autant des problèmes qui dérangent les parents. Par ailleurs, les tensions sécuritaires à l'est du pays rendent l'accès à l'école difficile pour de nombreuses familles déplacées. Alors comment réduire la pression financière sur les ménages, améliorer les conditions d'apprentissage et garantir la scolarisation des enfants issus des familles vulnérables et déplacées? Que devons-nous faire de manière collective pour que les difficultés économiques et sécuritaires ne privent aucun enfant de son droit à l'éducation? On en parle avec notre invité, honorable Didier Katembera, député provincial élu de Bukavu. Honorable, vous confirmez qu'à l'approche de la rentrée scolaire, il y a beaucoup de pression, des stress sur les parents.
Oui, bon, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des stress avant, à la veille de la rentrée scolaire dans les écoles de la République, notamment, particulièrement aussi dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, qui sont actuellement des provinces sous tension, des provinces sous occupation de la rébellion de l'armée rwandaise. Et actuellement, il faut dire que voilà, avec les contextes sociaux, économiques, sécuritaires, les provinces du Nord et Sud-Kivu, ça marchait pas. Et voilà pourquoi c'est forte tension, cette forte pression sur les parents. Beaucoup se posent des questions. Comment est-ce que les enfants vont rentrer à l'école? On n'a pas des cahiers, on n'a pas des fournitures. Les parents, pour la plupart aujourd'hui, dans ces deux provinces, beaucoup ont perdu des travails. Et comment est-ce qu'ils vont supporter les frais scolaires qui déjà sont déjà dans certaines écoles, on commence déjà à demander les frais d'inscription.
Voilà.
Et donc
une avance, la première tranche
des frais scolaires. Et tout. Oui. Et donc, pour ces parents qui ont perdu du travail, pour ces parents qui sont déjà à la retraite mais qui ont du mal à recevoir leur prime de retraite, pour ces parents qui ont travaillé avant pour dans les institutions provinciales, qui sont partis pour nous les sites Kivu à Ouvira, pour ceux qui sont nord Kivu à Beni, beaucoup de questions se posent. Alors voilà cette forte pression, et nous en tant qu'autorité, nous en tant que leader, nous avons le devoir, l'obligation d'apaiser, de ramener la population à l'espoir, leur dire que voilà, ça va finir cette question qui nous agace tous, les retours à la stabilité, qui freinent aussi les retours de beaucoup d'enfants dans les écoles. Ça va revenir à la normale, mais finalement les temps ne s'arrêtent pas, les temps il lui continue.
Oui.
Donc voilà autant de questions que les parents se posent actuellement.
Par exemple, pour les familles déplacées, comment vont faire pour que les enfants retournent à l'école?
Voilà, actuellement on est en train de d'identifier plus de 100 000 déplacés internes, sans parler des réfugiés qui sont partis au Burundi.
Je parle en Ouganda, et dans les pays limitrophes.
Là, je parle du cas précisément de la ville d'Ouvira et du territoire en général d'Ouvira, dans le haut plateau de Fizi, dans le haut plateau de Mwenga et d'Ouvira, où vous avez beaucoup d'enfants qui ont suivi leurs parents dans les camps déplacés, notamment en Tanzanie, en Ouganda et au Burundi, et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, mais qui se demandent sur quel sens vouer, comment, est-ce que dans ces camps il y a des écoles, je ne sais pas, est-ce qu'on a, pour ces nouveaux camps, parce qu'il faut noter qu'au Burundi, par exemple, on a noté plus de 7 nouveaux camps de réfugiés. Est-ce que dans ces camps, voilà, vous avez des écoles congolaises? Je pense qu'il n'y en a pas. Et des écoles qui sont à Bujumbura sont des écoles qui prennent en charge des enfants dont leurs parents ont plus de temps au Burundi, ou d'autres travaillent à Ouvira et qui étudient là-bas. Mais ce ne sont pas des écoles pour les enfants de familles vulnérables qui sont venues des hauts plateaux de ces trois territoires, notamment Ouvira, Fizi et Mwenga. Donc beaucoup de questions se posent, et voilà pourquoi en tant que député, en tant que lit du peuple, nous devons faire appel au gouvernement pour voir dans quelle mesure repêcher tous les enfants pour que tous, sans exception,
retournent
à l'école. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut envisager la construction des écoles dans ces camps de déplacés?
Je pense aussi gouverner, c'est prévoir. On devrait déjà penser à ça au début. Maintenant, à une semaine, c'est pas maintenant qu'on va dire qu'on va construire. Bon, finalement, il n'est jamais tard. Le gouvernement peut toujours disposer des moyens pour que dans ces camps-là, on commence déjà à faire quelque chose pour que d'ici un mois, l'école commence dans ces camps pour donner la chance à tous ces enfants. Parce qu'ils sont des Congolais, ce sont des enfants qui ont un avenir, et l'État a le devoir de sauver l'avenir de ces enfants. Donc d'ici, moi j'ai fait appel au gouvernement pour que déjà des écoles soient construites dans ces camps. Ils sont 6 au Burundi qui sont des camps, des nouveaux camps. Je ne parlais pas des camps qui sont en Tanzanie ont beaucoup de temps d'existence déjà,
oui,
ou en Ouganda qui ont beaucoup de temps d'existence déjà. Mais je parle particulièrement des camps qui sont au Burundi et qui sont des nouveaux camps et qui aujourd'hui, les élèves, les enfants qui vivent ont du mal, non seulement à vivre parce que la vie dans ces camps est totalement difficile. Mais aussi qui doivent étudier. Nous devons sauver l'avenir de nos enfants. Parce que ce qui nous amène à la guerre, c'est ça leur objectif. Oui. Rendre des Congolais des idiots. Et nous ne l'accepterons pas. Nous devons en tout cas faire de notre mieux pour sauver l'avenir de nos enfants, sauver l'éducation de nos enfants. Parce que l'État repose sur l'éducation de ses enfants.
Et l'éducation, c'est primordial.
C'est tout ce
qu'il
faut.
Tous les enfants doivent étudier.
Voilà.
Voilà. Mais pour les familles, il semble qu'il y a aussi des écoles qui ont été détruites pendant la guerre, à Bukavu particulièrement.
Oui, à Bukavu particulièrement, nous avons beaucoup d'écoles qui ont subi les conséquences de cette guerre. Mais bon, il faut dire que la population de la ville de Bukavu, elle est tellement dynamique, tellement souple. On essaie un peu de vivre avec, mais ce n'est pas facile. Et puis, les autorités des faits qui sont sur place, je suis en train de m'imaginer que les projets de développement ne sont pas dans leur
ça ne les concerne pas.
Ça demande que le gouvernement intervienne, parce que l'école est apolitique, ça c'est un. L'école est maître, ça c'est deux. Et l'État, bien qu'il ne contrôle pas ces zones, l'État devrait accompagner, financer la construction des écoles. Mmh. Parce que ces enfants qui dans ce ne sont pas, et ils sont victimes de la guerre. Ils n'en sont pour rien. Voilà pourquoi, en tant que député, je suis élu de la ville de Bukavu, il faut le dire, je demande avec indulgence, avec insistance au gouvernement national pour que quelque chose se fait en faveur des enfants, en faveur des écoles qui sont dans la ville de Bukavu. Au-delà des cités, de la construction des écoles, vous avez beaucoup d'enseignants,
oui,
des écoles primaires qui ne sont pas mécanisées, qui ne sont pas payées, et beaucoup d'autres qui ont des numéros matricules qui sont des numéros de facettes. En tout cas, avec indulgence, je demande pour que ces enseignants-là, qui doivent encadrer nos enfants, qui doivent former nos enfants,
oui,
et que le ministère du budget trouve des solutions urgentes afin de sauver l'éducation de nos enfants.
Mais aussi, comment le gouvernement fera pour les enfants qui sont dans les territoires sous occupation, parce qu'il y a... Il y a d'autres autorités qui sont là-bas et qui font la loi.
Bon, je vais dire que l'administration publique est prise en charge par le gouvernement national. En tout cas, même dans ces zones-là, tous les enseignants, néanmoins pour ceux qui ont des numéros matricules mécanisés, tous sont payés par le gouvernement national. Parce que l'administration publique est apolitique. L'administration publique devrait être amenée loin de ces histoires de guerre, des histoires de conflits, et l'État... Je remercie d'ailleurs le chef de l'État et tout son gouvernement pour les travaux continués à faire en faveur des agents de l'État qui sont dans les zones sous occupation, parce qu'ils continuent à recevoir leurs primes pour certains et d'autres leurs salaires pour leur survie au quotidien. Parce que si l'État ne les prenait pas en charge, je crois,
on enregistrerait la catastrophe,
des milliers de morts
dans
les zones. Mais aussi, je plaide pour les retraités. Parce que beaucoup d'enfants, il faut le dire, ils sont pris en charge par des personnes du troisième âge qui travaillaient avant, qui étaient cadres dans les
qui sont aujourd'hui retraités.
Qui sont aujourd'hui retraités, mais qui, jusqu'aujourd'hui, ne reçoivent pas leur prime de retraite. Je demande aussi à la CNTS voir dans quelle mesure on pourrait sauver l'avenir des enfants qui dépendent de ces personnes qui, avant la guerre, recevaient leur prime de retraite. Mais aujourd'hui, suite aux effets des guerres, ils ne reçoivent plus rien. Ils sont à Bukavu, ils sont à Calais, ils sont à Mwenga, ils sont à Kabar, ils sont aussi à Walungu. Ces parents nous font parvenir chaque jour leur doléance pour voir dans quelle mesure leurs enfants rentreront à l'école, et d'autres, voir dans quelle mesure ils seront capables de supporter les frais scolaires des enfants ou de leurs petits-fils.
Bien, on va accueillir Madame Liliane Iranga. Elle est fondatrice et présidente de la fondation Liliane Iranga, une ONG qui soutient l'éducation des filles à travers le projet Kelasi. Madame Iranga, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission.
Merci.
Alors, nous parlons de préparatifs de la rentrée scolaire, comment aider les parents à surmonter la pression financière et les problèmes sécuritaires, particulièrement dans la partie est du pays.
La fondation Liliane Iranga, depuis 2018, nous sommes engagés auprès de la population congolaise pour pouvoir soutenir et promouvoir l'accès de la jeune fille à l'école à travers le programme Kelasi. Donc ces programmes, c'est pour ça prend en charge la scolarité de la jeune fille jusqu'à l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires. Donc c'est ce que nous faisons chaque année ici à Kinshasa, dans le Nord Kivu et ainsi que dans le Sud Kivu.
On a vu d'ailleurs dernièrement des images d'une élève à Idjoui.
Oui,
vous avez financé ses études.
Oui, effectivement. Effectivement. Elle est très intelligente, elle a fait des très bons points. Ses responsables sont remontés jusqu'à nous pour pouvoir demander un soutien. Et nous avons accepté de l'accompagner parce que nous croyons vraiment en l'éducation de la jeune fille. On s'est dit que la femme, c'est l'avenir de demain, c'est vrai. Mais nous devions soutenir ces jeunes femmes à pouvoir au moins avoir un diplôme de fin d'études secondaires.
Bien, avant d'aller plus loin, on va accueillir les auditeurs. Emina Mwanda nous appelle des Kalemi et Jonathan Agati est certainement à Bounia. Monsieur Mwanda, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à l'honorable Didier Katembert et à madame de la Fondation Liliane Iranga.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, merci d'abord de m'avoir associé à ce débat qui est très important et qui tombe à point nommé. Parlant de rentrée scolaire et de ces préparatifs en ces derniers temps, surtout dans des zones sous occupation, c'est une façon aussi de contribuer d'une manière ou d'une autre pour que ces enfants puissent rentrer dans des conditions humaines à l'école. Mais c'est aujourd'hui, nous avons de contacts sur Bukavu. D'abord, je commence à vous révéler une chose, une situation que le gouvernement congolais est en train de faire présentement. Il y a les problèmes là des frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement pour les écoles où la gratuité est effective, on a majoré quelque chose, mais sauf dans des zones sous occupation. Ça, ce n'est pas d'abord une discrimination. On a mécanisé, on a payé certains enseignants non payés et certaines unités nouvelles dans ce secteur-là, mais seulement dans des zones sous occupation où aucun enseignant n'a pas été payé. D'abord, ça c'est une inquiétude pour parler d'une rentrée apaisée dans ces zones-là. L'école, l'éducation est apolitique, comme l'honorable l'a bien dit, le fondateur de Umoja Ninguvu, Monsieur Katembera. Mais c'est aujourd'hui. Mais nous devons d'abord nous regarder en face. Est-ce que chacun est en train de faire quelque chose pour que réellement cette école-là ou cette éducation soit apolitique? Parce que si je vous donne cet exemple-là, cela montre à un niveau qu'il y a une certaine chose qui se passe autour de ça. Et pourtant, l'éducation, les enfants doivent être épargnés de ce que les adultes sont en train de se parler.
D'accord. Quelles sont les questions que vous posez aux invités qui sont là?
Ma première question d'abord à l'honorable Didier Katembera. Quelles sont les mesures concrètes qu'il pense proposer au gouvernement pour que les enfants déplacés, comme il a dit, dans des camps de réfugiés, puissent réellement reprendre les cours? Parce qu'il a dit qu'actuellement, il est impossible de construire des écoles, mais il faut que le gouvernement fasse quelque chose. C'est quelque chose là, ce sont lesquels? Ça, c'est ma première question. Deuxième question à poser à l'invité, ou soit toujours à l'honorable député Katembera, lui étant honorable député de Bukavu, comment faire pour que ces enfants puissent d'abord avoir un sursaut national afin de se dépasser de ce qu'ils sont en train de subir? Quel est l'accompagnement pratique pour que ces enfants d'abord puissent se dépasser de la situation de guerre, parce que étudier dans ces conditions-ci est un peu difficile.
Merci beaucoup. Jonathan Agati. Oui, pour la fondation.
Pour la fondation, Liliane, est-ce que seulement cette fondation se trouve uniquement dans des zones reculées, pas à Bukavu? Et si c'est vrai, quelle est leur base à Bukavu? Merci beaucoup.
Merci. Jonathan Agati, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour cher Jody, bonjour aussi aux invités qui sont avec vous.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Vraiment ici à Ituri, en abordant cette thématique, je vous présente la situation de Ituri. Vraiment, le préparatif pour la rentrée scolaire ici est vraiment faible. Si vous essayez de voir un peu l'engouement au marché et dans d'autres endroits où on vend quand même les articles scolaires, vous savez quand même qu'il n'y a pas un engouement. Alors, l'Est de la RDC est touché presque deux ou à quatre fois. C'est-à-dire, il y a presque le malheur toujours à l'Est. Je ne sais pas si, lorsque on jetait le diable était tombé à l'Est de la République. Ça, vraiment, c'est une question, c'est une hypothèse, et je ne sais pas. Alors, à part la guerre, les enfants qui sont touchés...
À part la guerre, il y a aussi la crise sécuritaire avec Ebola.
Justement, c'est ce que je voulais y arriver. C'est-à-dire, à part la guerre, il y a aussi Ebola maintenant qui sévit. Alors, c'est-à-dire, Ebola a essayé de fragiliser plusieurs familles. Et beaucoup de parents, disons aussi, il y a eu de ces élèves-là qui sont partis comme ça. Ils sont morts pendant cette épidémie. Alors que voici la rentrée pointe déjà à l'horizon. Il y a des familles d'abord qui ne savent pas nouer les deux bouts de mois. Et maintenant, il y a aussi maintenant ces défis de préparatifs. Est-ce que vraiment le gouvernement est en train d'avoir maintenant, est en train de tourner vraiment les yeux autour sur ces familles qui se retrouvent maintenant dans la détresse? Alors, j'aimerais aborder plus précisément, particulièrement, les problèmes des cas de déplacés. Chers invités, Vraiment, je sais aussi que les autorités provinciales sont en train de nous écouter à ces pareils moments. Lorsque vous êtes en train d'évoquer les questions construire les écoles sur les ondes de radio, mais sur le terrain, c'est pratiquement tout à fait autre chose. J'évoque aussi ici deux grands sites de déplacés. Il y a le site de l'ISP et il y a le site de Kigonze. Si vous venez, vous faites un état des lieux des écoles qui sont là, mais vous vous dites vraiment, est-ce que le gouvernement a vraiment souci que ces enfants déplacés aussi aient de l'éducation au même diapason que les autres enfants? Vous voyez que ce ne sont que des petites constructions ou des choses qui ne tiennent pas debout, des maisons presque à lambeau comme ça. Les enfants s'assoivent à même le sol. Alors, voici aussi les défis sanitaires qui s'observent, qui viennent déjà. Maintenant, la rentrée scolaire qui s'observe déjà, nous demandons, ça c'est un plaidoyer, comme il est député, les plaidoyers comme ça, ce sont des plaidoyers que l'on devait mener aux autorités et même au président de la République. C'est-à-dire de tourner un peu un œil très favorable sur les enfants, sur les écoles qui se retrouvent dans les sites de déplacés, en renforçant les mesures sanitaires, bien sûr, mais également à juguler cette question de la sécurité. Merci beaucoup.
Merci, Jonathan. Madame Liliane Iranga, vous avez la parole.
Bon, je reprendrai à la question de savoir si on est seulement dans les zones reculées. Je dirais que non. Nous sommes dans le nord Kivu, dans le sud Kivu et ici à Kinshasa. Et c'est à peine qu'on est en train de travailler avec notre équipe pour pouvoir avoir une base à Kalemi. Parce que là, on a trouvé quand même une opportunité. Et je dirais aussi qu'on a vraiment une base et qu'on est là depuis... D'ailleurs, la fondation a commencé d'ailleurs à Bukavu. Okay. On n'avait pas commencé à Kinshasa.
C'était plutôt à Bukavu.
Donc, c'est là qu'on a d'ailleurs une très grande équipe. Parce que l'équipe de Bukavu coordonne aussi les activités dans le nord Kivu, aussi à Goma et à Beni.
Oui.
Donc, c'est la question, la réponse que je peux reposer.
Et qu'est-ce qui est prévu cette année dans le cadre du projet Kelasi?
Dans le cadre du projet Kelasi, nous avons des kits scolaires que nous allons partager aux enfants comme nous les faisons chaque année. À la veille de la rentrée scolaire pour permettre aux enfants des milieux reculés ou des enfants qui sont en difficulté, des orphelins que nous réunissons dans un lieu bien approprié pour les enfants en nous mettant quand même des divertissements parce qu'on n'aimerait pas que les enfants viennent récupérer des kits scolaires et partir. Nous aimerons à ce que lorsqu'ils arrivent qu'ils
passer
se sentent
qu'ils
passent
eux.
Un très bon moment on anime, ou ils mangent quelque chose, grignotent quelque chose et les kits scolaires leur sont remis selon leur niveau de classe.
Généralement, il s'agit de quoi? Des cartables, des cahiers,
tout ce
des stylos
faut. Tout ce qu'il faut pour pouvoir bien suivre ses cours.
Oui.
Donc, cahiers, stylos, tout ce qu'il faut, un sac pour le plus petit, une gourde pour pouvoir apporter de l'eau à l'école et tout. Tout ça, nous le réunissons, nous mettons dans les sacs et nous remettons. Et aussi, on a des enfants, donc le projet qui est là, qui concerne la promotion de l'accès de la jeune fille à l'école. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des jeunes filles que nous prenons en charge ici à Kinshasa et partout.
Vous payez les frais scolaires?
Nous payons les frais scolaires. L'année passée, on a eu à payer pour 10... Non, on a eu parmi nos filles, on a eu 15 filles qui ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires, le diplôme d'État. Donc, c'est ce que nous continuons à faire chaque année.
Avec vos propres moyens.
Avec nos propres moyens, bien sûr, mais aussi avec l'appui des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent depuis la fondation, depuis la création de notre organisation.
Bien, honorable Katembera, vous avez la parole.
Merci une fois de plus, Monsieur Jeudi. Par rapport à ces questions qui m'ont été posées par Monsieur Éminent et Jonathan, je voudrais ici demander ou rassurer à Monsieur Éminent de me faire confiance. Je viens de recevoir certaines informations venant de lui, notamment sur la majoration des frais de fonction pour des écoles qui ne sont pas dans des zones sous occupation et non pour celles qui se retrouvent dans nos milieux, notamment le nord-est de Kivu. Et moi, je voudrais lui rassurer que cette semaine, je vais me rendre au ministère de l'EPST pour vérifier l'information, parce que je suis député. Je ne peux pas confirmer une information sur laquelle j'ai pas de
oui, vous n'avez pas d'éléments, oui.
D'éléments, oui. Je vais me rendre cette semaine au ministère des EPS. Comme je suis à Kinshasa, je vais lui rappeler que je suis en train de consommer mes vacances parlementaires et donc je vais en profiter pour me rendre au ministère des EPST et me rassurer de la véracité de l'information. Par rapport aussi à la mécanisation, comme il l'a dit, des enseignants, enseignants présents dans les zones non occupées et non pour ceux s'y retrouvant dans les zones sous occupation, les nôtres, je veux dire, nôtres aussi de Kivu. J'avais aussi posé les mêmes questions au ministre ou à son IRCAB pour avoir certaines informations des vraies qui viennent de la source. Et si sont-elles vraies, en tout cas, je vais aussi demander que aussi les enseignants de nos milliers, de nos zones, malgré sous-occupation, soient concernés par ces avantages, notamment la majoration des frais de fonctionnement pour les écoles et aussi la mécanisation des beaucoup de ces enseignants-là. Parce qu'il faut dire que, avant d'être député, j'ai mené beaucoup de luttes pour demander à l'autorité nationale de mécaniser, non seulement de mécaniser les enseignants qui avaient des numéros matricules des facettes, mais aussi d'en ajouter d'autres et de lutter contre les effectifs fictifs qui sont aussi nombreux dans les systèmes de l'enseignement dans notre pays. Donc voilà pourquoi, étant un de ceux qui sont victimes de ça, je vais faire des moyens pour répondre à ces préoccupations à travers mes plaidoyers. Par rapport à ce que nous faisons pour que les enfants reprennent l'école de manière apaisée malgré les conséquences de la guerre, je voudrais lui rassurer que la semaine passée, d'ailleurs c'était passé sur Okapi, je m'étais adressé au ministre de la Défense pour demander la suppression des barrières illégales, notamment sur la route nationale numéro 5 entre Kamanyola et Baraka Fizi Centre.
Et pourquoi ces barrières existent?
Bon, ce sont des personnes qui ne sont pas contrôlées, des éléments non contrôlés.
Non contrôlés qui...
Malheureusement, qui ont installé des barrières sur
pour
lesquelles
percevoir
ils font payer,
de la,
ils font payer beaucoup d'argent aux paisibles citoyens, ces vieux, ces papas, ces mamans, qui se rendent d'ici et là pour aller
champs,
chercher la vie. Ce sont des petits commerçants. Ils sont à Kalonge, ils sont à Bunyakiri, ils sont à Mwenga, ils viennent de Bukavu, ils amènent des produits manufacturés ici et là pour voir comment les enfants vont commencer l'école, malheureusement tracassés par les éléments non contrôlés. Et j'avais mené un plaidoyer auprès du ministère, voir comment est-ce qu'on pourrait mettre fin à ça et voir dans quelle mesure on peut gérer ces gens qui font ces histoires. Je crois que ma voix a été entendue et la solution sera trouvée, parce que sans cela, en tout cas, les enfants ne pourront pas reprendre l'année scolaire en bonne et due forme. Donc je suis en train de faire, moi, le maire de moi-même, pour que les parents de nos provinces, je dirais nos récits qui vous, commencent cette année scolaire pour les enfants sans beaucoup de pression. Vous savez, les conséquences de la guerre, elles sont vraiment nombreuses, notamment cette pression financière. Beaucoup de parents n'ont pas leur salaire, ils ont perdu des travaux, beaucoup d'autres mères des AVC, parce qu'ils s'occupaient du travail, mais aujourd'hui ils ne font plus rien. On demande les frais scolaires.
Les frais scolaires, vous avez 3, 4, 5 enfants. Voilà, vous pensez à tout cela, c'est
C'est là que je reviens aussi à ceux qui gèrent les écoles, notamment les églises, pour voir dans quelle mesure ils peuvent aussi rendre effectif de manière durable la gratuité de l'enseignement dans les zones sous occupation de la rébellion.
Bien, on va accueillir Victor Nzuzi depuis Mbanzangungu. Bonjour, monsieur Nzuzi.
Bonjour à vous qui animez l'émission, à toute votre équipe. Et bonjour aussi aux deux invités. J'ai quelques préoccupations quand on parle de ce préparatif de la rentrée scolaire.
Oui.
Chez nous, par exemple, moi, à côté de ma petite case au village, il y a une école abandonnée depuis 2023. L'école 145 territoires, épée de Mvoisi, abandonnée. Et il y a deux semaines, l'équipe, je ne sais pas, des CFF, du ministère des Finances, est venue voir en nous disant qu'ils allaient réhabiliter, en fait, finir les travaux du bâtiment où il y a trois salles de classe tôlées. Parce que les trois autres salles de classe ne sont pas tôlées, ne sont pas finies, le bureau n'est pas fini, il n'y a pas de toilettes et tout ça. Et la rentrée scolaire, c'est demain. Je ne sais pas les députés, qu'est-ce qu'ils en pensent pour toutes ces écoles 145 territoires qui sont à travers le pays. Et par rapport aux revenus des parents. Donc, c'est vraiment 145 territoires, c'est déplorable. Hein? La population se demande Et même les enfants, les petits-enfants se demandent pourquoi l'État n'arrive pas à s'occuper d'eux. Alors, pour le parent, le revenu, moi je ne sais pas, les députés, comment est-ce que vous gérez la situation avec le gouvernement? Parce que c'est pas normal qu'on ne paye pas encore le parent. On ne paye pas encore le parent alors qu'il devait préparer la rentrée scolaire pour ceux-là qui travaillent. Et nous qui sommes paysans, si vous allez à Luozi aujourd'hui, à Luozi dans les territoires de Luozi, moi je suis de Mbanzangungu, le bac est tombé en panne depuis 2 ou 3 semaines. Le bac ne peut pas, le véhicule là sont bloqués là-bas de part et d'autre. Et le parent de Luozi ne peuvent pas aujourd'hui avoir de moyens parce qu'ils ne peuvent pas vendre. Alors, des situations pareilles, c'est des situations qui sont déplorables. Qu'est-ce qu'on fait dans pareilles conditions? C'est un député, nous avons l'occasion d'avoir un député national, il n'est pas un député provincial, de nous amener ce genre de doléances auprès des autorités. Non, parce qu'on parle des égalités, on parle de répartition.
Il est député provincial du site Kivu.
Ah oui. Désolé. D'accord, mais
la préoccupation est déjà enregistrée, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'avoir appelé. Madame Liliane, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette préoccupation?
Bon, c'est déplorable, comme il vient de le dire, que les écoles soient abandonnées, que cette école Epevoisi, je pense que j'ai bien prononcé, abandonnée depuis 2023. Je pense que de notre côté, nous allons contacter des personnes de très bonne volonté avec lesquelles nous travaillons, s'ils peuvent nous aider à pouvoir remettre cette école-là en état pour permettre aux enfants de cette partie du pays de pouvoir reprendre l'école. Mais si peut-être qu'on avait du temps beaucoup plus tôt, ça aurait été faisable.
Oui, c'est dans le cadre du projet 145 territoires, un projet financé par
l'État congolais.
Oui.
Mais ça n'empêche pas aussi aux personnes de bonne volonté de pouvoir intervenir. C'est l'éducation, c'est un secteur qui ne peut pas nous laisser indifférents. Donc je ne vois pas le mal de pouvoir apporter notre coup de pouce pour permettre aux enfants de pouvoir regagner l'école.
Bien, honorable, vous avez la parole, Katebira. Oui,
merci beaucoup. Par rapport à la préoccupation de mon ami, je voudrais dire qu'il s'approche des députés provinciaux de sa province,
oui,
pour qu'ils voient dans quelle mesure ils vont porter cette doléance auprès de leur gouverneur et après au ministère national. Mais quant à moi, je vais mettre en contact avec les députés du Congo Central parce que nous sommes des amis et je vais leur parler de cette préoccupation.
Vous avez des cadres de collaboration?
Exactement, nous avons un groupe qui nous unit, nous avons un groupe de 30 députés provinciaux qui reprennent d'autres députés dans le groupe des députés provinciaux de la République. Et par rapport à ce qui concerne ma province, j'ai commencé il y a 3 mois un travail d'identification des écoles qui étaient ciblées par les projets 145 territoires. J'ai pas encore fini. Pour moi, il était question de les identifier, de voir dans les territoires où on a placé ces écoles, celles qui ont déjà été construites, elles sont dans quel état, et pour celles dont la construction a commencé mais ça n'a pas fini, elles sont à quel niveau, et le travail n'a pas encore fini, mais je crois pour les vacances de la session de mars je pourrais finir et les rapports sera proposé à l'assemblée provinciale de ma province, dans quelle mesure on pourra plaider auprès du ministère.
Et vous siégez où, à Uvira pour le moment?
Nous siégeons pour le moment à Uvira.
À Uvira.
Mais quant à la ville de Bukavu, en tout cas toutes les écoles qui ont été concernées par ces projets, pour la plupart en tout cas les travaux ont fini. Et donc il faut alors retenir que dans les territoires où après que les projets aient commencé, la guerre aussi a toqué à la porte, malheureusement pour la plupart, les écoles n'ont pas, pour certaines qui avaient commencé, ça n'a pas fini, pour d'autres qui avaient déjà commencé, jusque maintenant les missions de contrôle, voir comment ça... les missions de contrôle pour voir la véracité du travail qui a été fait, ça n'a jamais été fait. Je comprends par la situation de la guerre qui nous incombe maintenant, mais en tant que député, comme le président aussi de l'Assemblée nationale, il est du Sud Kivu, en tout cas nous ferons le meilleur de nous-mêmes pour lui faire parvenir toutes ces doléances de la population du Sud Kivu, mais aussi de toute la République, parce qu'on est député bien qu'il est provincial. On peut parler
pour n'importe quelle partie du pays. Vous avez suivi par exemple la ami qui appelait de Bounia. Qui dit qu'à part l'insécurité, on a aujourd'hui la crise sanitaire avec Ebola. Tout ça, ça perturbe.
Je vais lui rappeler qu'il y a peu, j'ai reçu à Bounia une information sur laquelle il nous de 23 kilomètres pour des petits commerçants qui viennent du nord-est de Kivu, qui vont là-bas. Ça fait une semaine, deux semaines avant de finir cette route. Donc, j'en ai proposé cette question à un député de Bounia.
Et il y a une route qui quitte à Kitté ou Kisangani
qui a 23 kilomètres, mais qui est en état de développement très avancé. Ou même pendant cette période sèche, les véhicules font une semaine avant de...
Ah, qui quitte le nord Kivu pour l'Itourie.
Exactement. Okay. Les véhicules font une semaine pour traverser 23 kilomètres. C'est insupportable.
Oui, c'est insupportable.
Donc, j'ai proposé ce plaidoyer auprès de mes collègues de Bounia. Et voilà, pour ceux qui sont ici, le plaidoyer s'est fait auprès du ministère de ITPR, voir dans quelle mesure on pourra avoir cette question et calmer les larmes des populations qui traversent cette route de 23 kilomètres. Donc, par rapport à la question des écoles qui sont là-bas, nous allons aussi travailler avec nos amis, voir dans quelle mesure nous allons aider nos populations qui sont à Bounia et voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution palliative par rapport à cette question.
Madame Iranga, par exemple, revenons à Kinshasa et dans d'autres territoires qui ne sont pas occupés, il y a une pression financière sur les parents. Il y a des écoles qui exigent les parents, vous devez acheter les fournitures chez nous ici, et les prix sont très élevés par rapport au marché, les uniformes, etc. Il faut verser la compte, tout ça, les frais de réinscription, etc. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça?
C'est déplorable parce que nous sommes passés aussi dans plusieurs écoles là où nous avons des enfants qui suivent les cours. En voyant, même en discutant avec les responsables, vous voyez que c'est ce qui est dit. Malgré que les autorités du pays ont essayé de mettre fin à cette pratique, mais malgré cela,
ça continue
toujours. C'est vraiment déplorable parce que même nous, en tant qu'organisation, avec le maigre moyen que nous avons, nous essayons de faire de notre mieux pour aussi prendre en charge nos enfants, nous assurer que ces enfants, sous la charge de la responsabilité de la Fondation Lilian Iranga, que ces enfants puissent avoir accès à l'éducation, bien débuter le cours. Mais on nous oblige effectivement à payer, c'est vrai, là même en tant qu'organisation. Quand on leur dit par exemple que nous ne sommes pas encore prêts, peut-être on attend des donations de nos partenaires et tout, on nous dit non, vous ne vous êtes organisation. Donc vous êtes obligés de pouvoir payer pour que les enfants puissent débuter les cours. Et c'est vraiment déplorable parce que c'est même pas seulement à Kinshasa, c'est partout dans le pays où les parents sont en train de pleurer, surtout à cause de la précarité, tout ce qui se passe et tout. Donc, mais nous essayons. Malgré cela, on s'est dit on va pas lâcher, on va pas baisser les bras. On est obligé de multiplier des efforts pour permettre à ce que nos enfants puissent reprendre le chemin de l'école.
Et comment vous arrivez à faire le choix, les critères de choix de ces enfants bénéficiaires de votre appui?
Nous avons des équipes sur terrain. Ce sont des enfants répertoriés depuis 2018 et nous le faisons chaque année. Nous avons des personnes qui nous contactent, des orphelinats qui nous contactent. Nous avons aussi des familles, parce que nous ne travaillons pas seulement avec les orphelins. Nous avons aussi des enfants, un peu comme la fille d'Igui. Elle a des parents qui sont là, mais qui n'ont pas la possibilité de pouvoir assurer sa scolarité. Elle est intelligente. C'est une jeune fille. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas l'abandonner. Nous la prenons en charge, nous permettons à ce qu'elle aille à l'école, mais nous sommes obligés de suivre son évolution. À chaque fois, nous allons nous demandons à son école de pouvoir nous envoyer ses cotes d'interro, des devoirs et tout. On voit tout ça. Son journal des classes, même pas seulement celle d'Igui ou même ceux qui sont ici à Kinshasa, qu'est-ce que nous faisons? Nous vérifions le journal des classes. Nous voulons nous assurer que, certes, nous payons le frais.
Et l'enfant s'applique.
Et que l'enfant s'y applique. Que les parents aussi nous accompagnent. Ou les responsables même des orphelinats. Nous leur demandons de pouvoir nous soutenir, nous permettre de vraiment suivre l'éducation et l'évolution des enfants. On veut se rassurer que l'enfant était effectivement à l'école, que l'enfant s'applique, que l'enfant fait ses devoirs et tout. Parce que nous ne voulons pas que l'argent sorte pour rien. Parce que des sacrifices que les gens font. Font des sacrifices pour nous permettre de pouvoir scolariser ces enfants-là. Mais on doit aussi se rassurer parce que ça crée aussi un climat de confiance entre nous et nos partenaires. nous nous assurons que ces enfants-là, effectivement, vont à l'école. Nous nous assurons, effectivement, que tout est fait. L'enfant n'est pas parti à l'école, on doit savoir pourquoi est-ce que cet enfant n'est pas parti à l'école. L'enfant fait une semaine, par exemple, ne part pas à l'école, on demande des moments d'échange avec. Nous nous approchons de l'enfant, lui demandons qu'est-ce qui se passe. Si l'enfant peut-être a des difficultés dans une autre matière, nous organisons des cours d'encadrement. Ça, nous le faisons. Nous les faisons, nous suivons. À chaque fois, après le cours d'encadrement aussi, on aimerait voir une certaine évolution.
Oui.
Et quand il y a évolution, de notre part, nous, ça nous fait énormément plaisir parce que c'est ce que nous voulons, transmettre cela aux enfants, permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école.
Alors cette année, est-ce que vous allez ajouter d'autres enfants ou vous continuez avec ceux-là jusqu'à ceux qui vont terminer?
On en a rajouté. On a d'accord. rajouté 80 enfants.
80 enfants.
Pour le fait de pouvoir bénéficier des kits scolaires. Okay. On en a rajouté 80. Mais pour le projet Kelasi, parce que je m'aimerais bien préciser que le projet Kelasi est très différent du partage des kits scolaires.
Okay.
Et partage des kits scolaires, c'est fait avec tous les enfants, garçons, filles. Mais le programme Kelasi ne concerne que
la jeune fille.
Oui, parce d'accord. que nous avons établi ce programme dans le cadre de la promotion de l'accès de la jeune fille à l'école. Okay. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'ici à Kinshasa et partout ailleurs, nous avons des familles qui font voir plus les garçons à l'école. La fille, on lui dit non, qu'elle peut attendre et tout, qu'on n'a pas assez de moyens et tout, ou bien elle va aller vendre au marché avec sa maman. Alors c'est pourquoi nous avons créé le projet Kelasi. Mais avec Kelasi, nous avons que 10 jeunes filles jusque-là enregistrées pour cette année scolaire 2026-2027. Mais pour le programme avec le partage des kits scolaires, ça nous avons 80 enfants du quartier Kimbwala, par exemple, ici à Kinshasa, qu'on nous a ramené une liste d'enfants et nous sommes allés aussi sur terrain pour vérifier et le partage de kits scolaires se fera en fin de cette semaine.
Bien. On va accueillir Blaise Saïdi depuis la ville de Kisangani. Blaise, bonjour.
Bonjour, cher Jody. Bonjour à l'invité ainsi qu'à l'auditrice de la Radio Capi.
Quelle est votre question?
Je vous félicite pour m'associer à cette thématique importante. Voilà. Ma préoccupation d'abord est de savoir, au regard de ces sujets d'aujourd'hui, Monsieur Jody, les enseignants de la ville de Kisangani sont en difficulté. Quelles sont les difficultés? Depuis le mois de juin, il y a eu permutation des enseignants dans des différentes banques. Ou depuis le mois de juin jusqu'à présent, il y a d'autres enseignants qui n'ont pas encore touché leur salaire. Voilà, ça c'est une dénonciation. Donc ici, cher Jody, la pauvreté et l'insécurité ne doivent pas priver aucun enfant de son droit à l'éducation. Face à la hausse du coût de vie, comment les parents peuvent-ils préparer la rentrée scolaire? C'est ce que je venais d'aborder avec les sujets concernant le problème où les enseignants, jusqu'à présent, d'autres enseignants, depuis le mois de juin, ils n'ont pas encore retouché leur salaire. Et je vais me limiter ici que la gratuité de l'enseignement suffit-elle réellement à soulager les familles? Puisque aujourd'hui, la gratuité, c'est des premières années d'éducation de base, nous disons première année primaire jusqu'à huitième année. Mais les enfants de huitième année ne sont pas pris à compte au niveau des gratuités scolaires. Ça se limite qu'au niveau de l'ancienne école primaire. Comment cette incompatibilité, cher Jody? Je me limite à ce niveau-là.
Merci beaucoup, honorable Katembera.
Bon, merci de la parole. Et à la préoccupation de notre frère de Kisangani, M. Blaise, par rapport à sa deuxième préoccupation, la gratuité sur l'âge des parents, mais elle concerne seulement l'école primaire. Je voudrais ici lui dire que l'enseignement, d'abord, est coûteux. La formation, elle est coûteuse. Elle coûte beaucoup. Et dans beaucoup de pays du monde, l'école primaire est gratuite. Gratuite pour faciliter, pour permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Quant à l'école secondaire, on réduit les prix dans les écoles publiques, mais dans les écoles privées, il faut poser la question, elle coûte extrêmement cher la formation. Et donc, quand le gouvernement fait des bonnes choses, il faut quand même encourager. Hein? Je me rappelle, il y a 5 ans, les enfants, les parents payaient l'école primaire. Je me rappelle même en 2007, 2008 ou 2009,
oui.
Il y a un système qui a commencé jusqu'en 3e et puis ils ont limité. Mais l'actuel système, quand même, a fourni beaucoup d'efforts
pour qu'il y ait gratuité de l'enseignement.
Que dans notre pays, l'école primaire soit gratuite. Il faut dire que cette gratuité a connu beaucoup de problèmes aussi, beaucoup d'obstacles, mais le chef de l'État s'est imposé. Il a imposé la gratuité dans toutes les écoles et actuellement c'est effectif et on comprend. Les enseignants aussi comprennent que voilà, les enfants quand même doivent étudier paisiblement dans les écoles sans payer un seul frais. Il y avait eu beaucoup de dérapages, notamment dans toutes les provinces.
Mais est-ce que cela ne réduit pas la qualité parce qu'ils sont démotivés, les enseignants n'enseignent plus bien?
Bon, je veux dire que même les paiements avaient été haussés. Il faut dire que les paiements, les salaires des enseignants d'il y a 10 ans n'est pas celui d'aujourd'hui. Les salaires a été aussi quand même haussé à un moment donné. Mais lorsque la mobilisation des recettes est effective, les charges sociales aussi montent. Donc le gouvernement fait de son mieux pour rajouter quand même chaque année sur le paiement des salaires des enseignants.
Mais vous avez subi, il y a des enseignants depuis le mois de juin qui n'ont pas été payés.
Bon, ça ce n'est pas une réalité générale. Ce n'est pas une réalité générale. Peut-être qu'il a constaté dans une partie de sa province, mais il faut dire que, en tout cas, le ministère des Finances fait de son mieux pour payer les enseignants chaque fin du mois. Et là, il a dit que c'est par rapport à la permutation de certains d'une banque à une autre. Donc ça, ce n'est pas une question qui concerne directement le gouvernement national. Ça va avec le fonctionnement de cette banque-là. Lorsque on vous déplace d'une banque à une autre, vous devez connaître ces moments-là de récalage. Par exemple, pour le Sud Kivu, moi je suis député du Sud Kivu, c'est là qu'il y a un sérieux problème. Parce que pour quelqu'un qui était payé à la TMB à Bukavu, mais qui déjà mécanisé, il ne saura plus ouvrir son compte là-bas à Bukavu parce que TMB n'existe plus à Bukavu. Il faut aller soit à Uvira, soit à Kalimi ou à Beni. Pour ceux qui étaient à la Rawbank ou qui étaient à Equity Bank, par exemple, Equity n'est pas à Uvira. Il est obligé de faire Bukavu, Goma, Beni pour chercher Equity. Parce que même à Kalimi, il n'y a pas Equity. Donc c'est un projet que je mène auprès de ces banques-là pour qu'ils placent des banques à Uvira. Pour les enseignants qui sont à Bukavu, qui peuvent venir à Uvira pour ouvrir leurs comptes. Parce que quitter Bukavu vers Beni est plus facile, est plus difficile que quitter Bukavu vers Uvira. Parce que Uvira et Bukavu, c'est 150 km et la route déjà, elle est libre. Et donc,
elle
est en bon état. Pas en bon état, mais quand même accessible. Et on peut quitter Bukavu jusqu'à Uvira dans 4 heures, on arrive. Donc, je plaide auprès des banques, notamment la TMB et Equity, Rawbank, pour qu'ils aillent ouvrir leur.
Mais il y a aussi Caritas. Souvent, on utilise aussi Caritas pour. Pour les paiements.
On utilise Caritas pour les enseignants qui sont dans les zones très reculées, qui ne sont pas aussi, qui sont enclavés, notamment dans les fonds de Chabunda, dans les hauts plateaux de Fizi. Là, Caritas fait son travail, mais dans les zones qui sont accessibles, notamment Uvira, Kamituga, Baraka, Bukavu, Calais, Centre. En tout cas, ce sont des banques qui facilitent pour que les enseignants reçoivent leurs propres salaires. Donc, je plaide auprès des institutions financières afin que Uvira, en tout cas, qu'on jette un peu un coup d'œil à Uvira pour permettre aux enseignants qui sont à Bukavu, qui peuvent venir ouvrir leurs comptes au niveau de la ville d'Uvira.
Oui. Madame Iranga, je pense que vous avez aussi constaté qu'avant chaque rentrée scolaire, il y a toujours des menaces de grève, des enseignants à gauche, à droite, des problèmes. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout cela?
On va demander comme l'honorable venait de dire tout à l'heure, essayer de plaider auprès des autorités de pouvoir payer ou passer au paiement des enseignants, les frais de fonctionnement, les assurer, c'est là. Pour que, c'est vrai que parfois nous condamnons cet acte-là, mais il faut se mettre aussi à la place de ces personnes qui n'attendent que ça pour pouvoir survivre. Donc moi je soutiens, ou je réitère le propos de l'honorable tout à l'heure, qu'il faudrait que le gouvernement central puisse vraiment s'impliquer pour que ses responsables entrent dans leurs droits carrément et puis permettre à ce que nos enfants puissent bien reprendre l'école.
L'école. Mais l'idée de la gratuité, vous soutenez, c'est une bonne chose pour nous.
C'est une très bonne chose.
Enfants.
C'est une très bonne chose. C'est vrai qu'au début, tous on avait l'impression que c'était un peu à la va-vite, que c'était pas bien organisé. C'est vrai, bon, c'est tout à fait normal. Quand une chose elle est nouvelle, il faut du temps aussi pour s'adapter. Mais je trouve quand même que chaque année, quand même, il y a amélioration quand même dans ces secteurs-là, quand même. Oui.
Bien, nous parlons de préparatifs de la rentrée scolaire, comment surmonter les difficultés financières et d'ordre sécuritaire, surtout pour les compatriotes qui sont dans les zones sous occupation. Honorable Didier Katembera, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour assurer une rentrée scolaire paisible à ces compatriotes qui sont dans ces régions-là?
Bon, ce qu'il faut faire d'autre, c'est demander les respects des accords de Washington pour que le cessez-le-feu soit effectif dans toutes les écoles des provinces du Nord et Sud Kivu. Il faut dire que l'école, elle est apolitique. Il faut mettre des côtés, vraiment de loin, les institutions de formation de nos enfants, les sécuriser. Les autorités de fait qui sont là-bas doivent sécuriser toutes les écoles sans exception. Demander aussi aux autorités, demander aux leaders de la société civile, notamment à les églises, de rendre ces écoles inclusives, on l'a dit. Il faut accepter tout le monde, sans exception, sans distinction des races, des tribus ou des rangs sociaux. Prenez tout le monde. Évitez d'imposer les frais d'inscription, vu la situation de tout le monde, que le gouvernement accepte de supporter, comme il l'a toujours fait, réduire ou mettre fin, comme ils l'ont fait, aux frais des personnes armées d'État, ils l'ont fait. Je plaide aussi pour qu'ils fassent la même chose pour les TENAFEP, parce que ça, ce n'est pas encore gratuit. En tout cas, je demande auprès du gouvernement pour que les TENAFEP soient aussi gratuits, les frais des personnes TENAFEP soient aussi gratuits. La gratuité, elle doit être respectée, formellement respectée, dans toutes les écoles de cette partie de notre pays, dans le Nord et Sud Kivu. On doit respecter formellement la gratuité. Et les autorités des faits qui sont là-bas doivent suivre cette décision parce que ce sont nos enfants, ce sont des Congolais et qui doivent recevoir des avantages comme des enfants de toute la République démocratique du Congo. La mécanisation des enseignants, Eminent l'a dit, nous plaidons pour que cette mécanisation soit effective partout en République démocratique du Congo, notamment pour les enseignants du Nord et Sud Kivu, parce que il s'est fait constater que voilà, il y a une légèreté, donc on essaie un peu de faire en sorte que bon, ils doivent attendre que la paix revienne. Non, le ventre ne va pas attendre. Et la formation ne va pas attendre.
Ne va pas attendre, oui.
Qu'on nous donne la même considération comme toute la population congolaise. S'il y a mécanisation, qu'on mécanise aussi nos enseignants, ceux qui font que nous sommes aujourd'hui députés. S'il y a les frais de fonctionnement qui arrivent, qu'on en amène aussi
qu'on pour donne les écoles, aussi à toutes les écoles.
Du Sud Kivu et du Nord Kivu, qui sont des écoles qui subissent les effets de la guerre. Parce que sans cela, vous devez vous rendre compte que les enfants vont souffrir. Ça ne revient pas aux députés de commencer à donner les frais pour dans les écoles. Ce n'est pas normal.
Non, ce n'est pas votre travail.
Ce n'est pas normal. Que le gouvernement fasse son travail. Oui. Sinon, on va commencer à voter pour des vendeurs des histoires,
des
pour
rêves,
devenir députés. Demain, ils ne feront pas ce travail. Qu'on laisse au gouvernement de faire son travail.
Voilà. D'accord. Pour terminer, Madame Liliane Iranga, pour les enfants qui sont, par exemple, dans les camps des déplacés, etc., qu'est-ce qui peut être fait pour que ces enfants étudient?
Nous, on a une action dans le Nord Kivu à la fin de cette semaine où nos équipes sur place vont aller dans les camps pour pouvoir faire la distribution de kits scolaires. Ça, c'est prévu.
Okay.
Dans notre agenda, il y a dans le Nord Kivu. Et on a aussi, je dois bien vérifier, mais on a aussi déplacés aussi à toujours dans le Nord Kivu, mais à un peu plus profond. Je pense qu'il y a aussi toujours une organisation qui va y aller cette semaine pour pouvoir faire le partage de kits scolaires. Donc ce partage se fera au même moment ici à Kinshasa. Ça se fera aussi dans le Nord Kivu, mais aussi dans le Sud Kivu aussi.
Dans le Sud Kivu.
Oui, effectivement. Pour nous permettre, la rentrée tombe un mardi. C'est une première. Donc on va faire en sorte que déjà ce week-end, que tous les enfants obtiennent, soient en possession de leur kit scolaire pour d'accord. pouvoir le permettre de pouvoir retourner.
Honorable, on est déjà à la fin, rapidement, ouais, ouais, deux secondes.
Pour les réfugiés qui sont à Bujumbura, oui. dans les camps, en tout cas, je vais me démener pour que j'informe à l'autorité nationale afin d'accord. qu'ils voient de ses côtés pour construire une ou des écoles.
Merci beaucoup, honorable Didier Katembera. Madame Liliane Iranga, merci.
Merci à
vous. Bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.